Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'apprentissage de la programmation pour les femmes, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Véronique Bonnet sur la documentation en libre et une deuxième chronique d'Antanac sur téléphone mobile et vie privée. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Nous sommes mardi 10 novembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise qu'aujourd'hui, nous diffusons chez nos voisins et voisines d'Antanac. Si vous voulez réagir, se poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Vous avez l'habitude du quiz, mais là aujourd'hui, ça va être simplement une petite question. Promouvoir le libre sur les ondes et en podcast, c'est beaucoup de plaisir, mais ça nous ferait chaud au cœur de savoir comment vous nous écoutez, au petit déjeuner, dans le train ou pour accompagner vos siestes. Dites-nous tout et vous pouvez même peut-être envoyer une petite photo comme les photos qu'on met en ligne sur le site de la radio causecommune.fm ou sur april.org. Vous pouvez proposer les réponses sur le salon web de la radio ou par tout autre moyen de nous contacter sur nos différents sites web. Et j'en profite pour faire un coucou notamment à Pierre, Jean et Patrick qui nous écoutent habituellement lors de trajets en voiture, à Thierry qui nous écoute le dimanche pour accompagner le repassage de la semaine, à Xavier quand il désassemble des trucs en bio-ingénierie, à Nicolas qui nous écoutait dans le car lors des trajets à vide, puis le matin au réveil et maintenant quand il a un moment de libre d'esprit. Et bien entendu, on aimerait des réponses d'auditrices aussi, bien sûr, car on sait qu'il y a des auditrices qui nous écoutent. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique a été enregistrée il y a quelques semaines. On se retrouve juste après. Nous allons poursuivre par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon ». Et aujourd'hui, Véronique va nous commenter un texte de Richard Stallman intitulé « Pourquoi le logiciel libre a besoin d'une documentation libre ?» Véronique, je te passe la parole.
Alors en effet, Fred, il s'agit d'un article de Richard Stallman, un article de 1996. Il se trouve que la philosophie GNU se réjouit que l'utilisateur s'interroge. Et d'ailleurs, tu l'as dit, tu as dit ce titre, cet article a pour titre une question. Quand un enfant demande pourquoi, pour la première fois, il est important de trouver les mots pour expliquer, pour transmettre ce qu'on croit avoir compris, pour qu'il gagne en autonomie, devienne plus confiant dans ce qu'il fait, en comprenant pourquoi il le fait. Alors, il y aura beaucoup de pourquoi qui suivront. Le premier pourquoi, inlassablement, auquel il sera important que nous essayions de répondre également inlassablement. Platon, un philosophe, disait que savoir s'étonner de quelque chose était le début de la philosophie. Dans mes cours, je montre à mes étudiants qui ne doivent jamais se résigner à ne pas comprendre quelque chose. S'interroger est un droit, et sans doute aussi un devoir. Laisser les programmes informatiques non libres exécuter ce qu'on ne comprend pas, à notre insu, c'est abdiquer. Le logiciel libre a besoin d'une documentation libre. Richard Stallman se réfère à une expérience qui fut la sienne. Il a un moment voulu apprendre un langage, il a voulu apprendre à coder en Perl. Il y avait bien de la documentation libre, sous forme de manuel, mais très difficile. Une documentation, comme son nom l'indique, alors ça vient du latin, doceo, j'enseigne quelque chose à quelqu'un, et ce qui permet d'acquérir un savoir et un savoir-faire. Et comme il voulait apprendre Perl, Richard Stallman avait demandé à des programmeurs en Perl s'il n'y avait pas de manuel libre plus facile d'accès. Les seules documentations sur Perl, plus abordables, étaient non libres. édité sous copyright seulement et en version papier. Alors que les documentations libres de GNU, qui permettent l'accès aux codes sources, qui peuvent être exécutés, étudiés, modifiés, améliorés et distribués, sous forme de copies modifiées ou non modifiées, sont bien sûr beaucoup plus souhaitables. Richard Stallman fait alors la différence entre la documentation libre, qui doit permettre sans restriction les quatre libertés, et des articles ou des livres, par exemple celui qu'il écrit à propos de la documentation libre, dans lesquels des militants du logiciel libre expriment par des choix d'écriture très intimes et originaux des perspectives non techniques. Alors pourquoi cette comparaison ? Parce que alors, si on est dans un propos qui est personnel, qui est original, qui fait intervenir un certain rythme d'écriture, les auteurs n'ont pas à se sentir obligés de donner, d'octroyer le droit de modifier. Par contre, et c'est le cas de toute documentation, les documentations techniques ou les parties techniques de documentation libre doivent pouvoir impérativement accueillir des améliorations et laisser possible la diffusion de versions améliorées et encore améliorables. Il faut donc qu'un programmeur consciencieux ait les mains libres pour pouvoir faire bénéficier la communauté de ce qu'il a trouvé. Richard Stallman conclut son article en passant en revue les obstacles à la réalisation d'une documentation libre pour les logiciels libres. Premier obstacle, l'existence d'un manuel privateur peut dissuader les rédacteurs de réaliser une documentation libre. Ce qui a pour effet négatif que cette documentation non libre a un caractère statique, peu adaptatif, alors que la documentation libre, elle, est plastique, elle est reconfigurable. Je cite Richard Stallman, « Un système d'exploitation libre peut avoir une fissure qui nécessite un colmatage. Il faut donc que la documentation libre ait l'agilité dans les techniques qu'elle propose de modifier, d'améliorer les préconisations. Deuxième obstacle, certains qui se contentent de logiciels non libres se satisfont complètement de documentation non libre. La liberté n'est pas pour eux une exigence incontournable. Il serait bien sûr préférable qu'ils conjuguent technicité et liberté. Je dirais que cette émission de radio de l'April que vous écoutez joue ce travail, ce rôle de sensibilisation pour que la technique soit toujours assortie d'une autonomie d'usage de la technique. Autre obstacle, les manuels non libres, les éditions privatrices, malgré leur insuffisance, font de l'ombre à la documentation libre, en perte de vitesse. Et en 1996, lorsque Richard Stallman écrit cet article, il constate « Nous continuons à perdre des manuels, libres. » D'où un double appel. D'abord aux rédacteurs, pour qu'ils rendent leur documentation libre. Ensuite aux éditeurs, pour qu'ils vendent des manuels sous copyleft. Enfin, aux utilisateurs, pour qu'ils vérifient les termes de la licence des manuels. À cette fin, la FSF maintient sur une page une liste de manuels libres en plus de la documentation GNU. Je dirais, pour conclure cette chronique, que le professeur de philosophie que je suis peut se référer ici un texte de Kant qui me paraît avoir un projet assez proche de celui que, de l'article que j'ai commenté. Ce livre s'appelle « De la contrefaçon des livres ». Et dans ce texte, Kant fait l'hypothèse que lorsque le savoir n'est plus disponible, lorsqu'un livre n'est plus édité, ou lorsqu'il est édité en nombre insuffisant d'exemplaires, alors il faut que le public s'en empare. Il faut que le public exige que l'édition soit reprise, qu'elle soit rendue disponible suffisamment. Soyez exigeants en matière de logiciel et en matière de documentation.
Merci Véronique. C'était la chronique donc de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. La chronique du jour portait sur le texte de Richard Stallman intitulé sous forme de question « Pourquoi le logiciel libre a besoin d'une documentation libre ?» que vous pouvez retrouver en français sur le site gnu.org. Gnu, c'est GNU.org. Et je rappelle que toutes les traductions du site gnu.org sont réalisées bénévolement par notre groupe de travail TradGnu, qui a donc pour but de vous présenter en français l'informatique libre et la philosophie de Gnu, et que vous pouvez rejoindre ce groupe pour traduire ou relire des traductions. Merci Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
Belle fin de journée à toi Fred.
Donc c'était la chronique de Véronique Bonnet enregistrée il y a quelques semaines. Nous allons faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site auboutdufil.com va nous faire découvrir Glaciere, qui est un artiste suédois. On va avoir des thèmes de l'eau, de la glace, de l'été et ainsi une ambiance relaxante et reposante pendant les pauses musicales de l'émission. On va écouter Relaxing in the Hammock. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune.
93.1. We'll be right back.
Nous venons d'écouter Relaxing in the Hammock par Glacieré, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique, y compris pour toute utilisation commerciale. Vous retrouverez les références sur le site april.org et sur causecommune.fm et une présentation de l'artiste sur le site auboutdufil.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec nos invités, donc Chloé Hermari d'Ada Tech School. Donc on va vérifier que Chloé est avec nous au téléphone. Bonjour Chloé.
Bonjour Fred.
Laila Atmou de Ladies of Code Paris. Laila, est-ce que tu es avec nous?
Bonjour, oui, je suis avec vous.
Et Sonia Edouard-Douri, excusez-moi, de Django Girls Paris. Sonia, est-ce que tu es avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Bon, ben parfait. Alors, c'est évidemment pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter l'émission, c'est pas la première fois qu'on aborde de ce sujet-là. Hein. Je vous renvoie à différents podcasts sur causecommune.fm, sur les femmes et l'informatique, sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants, sur le développement du logiciel libre avec une développeuse, et sur l'émission consacrée à Ada ou la beauté des nombres, dont on va peut-être tout parler tout à l'heure. Mais c'est un sujet fondamental, donc on y revient évidemment, donc avec trois personnes. Et on va commencer, avant d'aborder le fond de la question, par une petite présentation personnelle de chacune de nos personnes, ce qui permettra aussi de voir un petit peu les voix. Écoutez, je propose qu'on commence par Chloé Hermari de Ada Tech School.
Oui. Donc, bonjour, moi c'est Chloé Hermari, j'ai 26 ans, je suis la CEO et fondatrice d'Ada Tech School. Ce que ça veut dire, c'est que je ne suis donc pas développeuse, moi je suis entrepreneur et j'ai créé une école d'informatique féministe en 2 ans. Qui vise du coup à former, à ouvrir à plus de diversité, notamment pour les femmes, les métiers de l'informatique.
Très bien. Alors évidemment, on va rentrer dans le détail tout à l'heure de ce que c'est que cette école. Laila Atmou, je te laisse te présenter.
Oui, donc je suis Laila Atmou, j'ai 29 ans. Je suis développeuse web depuis maintenant quelques années et je fais partie des organisatrices de la communauté Ladies of Code Paris, qui est une communauté qui encourage les femmes à s'intéresser à une carrière technique dans l'informatique, que ce soit des métiers de développeuse, de data scientist, etc. Et surtout à s'y épanouir, une fois qu'elles y sont.
D'accord. Et dernière invitée, donc Sonia Edouard-Douri de Django Girls Paris. Sonia.
Bonjour, alors moi je suis, voilà, comme vous dites, Sonia Edouard-Douri. Je représente l'organisation qui s'appelle Django Girls Paris, qui est une organisation partout dans le monde, basée à Londres. Et moi, mon domaine, il est plutôt dans le business analysis. Ma carrière, c'est plutôt en tant que business analyst dans les télécoms à Londres. J'ai créé une start-up et je me suis retrouvée à faire ça. Et je serais ravie de vous en parler.
Bon, bah écoutez, très bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir toutes les trois. Alors, je précise que pour les conditions techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas notre studio principal. Nous sommes chez nos voisines d'Antanac et nos invités sont par téléphone. Donc, on s'excuse pour la qualité qui n'est pas habituelle par rapport à la diffusion. Oh, Olivier Grieco me dit que ça va, le directeur d'antenne. Il a l'air content. Il n'a pas l'air chafouin, donc ça va, il est à côté de moi. Alors, on va commencer par en fait, une première question qu'on va aborder pendant quand même quelques minutes, qui est un petit peu le constat. Parce qu'en fait, pourquoi on fait ce genre d'émission et c'est pas la première, donc consacrée là précisément à l'apprentissage de la programmation pour les femmes, c'est, j'aurais envie de vous poser la question, c'est quels sont les problèmes, depuis quand ça existe, voilà, quel est le problème aujourd'hui concrètement, depuis quand, comment ça se manifeste, etc. Qui veut commencer?
Ben alors si vous voulez, je peux commencer.
Alors c'est Chloé, c'est ça?
Oui, exactement, voilà. C'est Chloé. et puis après, ben, je laisserai évidemment la parole à Sonia et Léla qui pourront en dire plus. Je pense qu'avant de commencer, avant de parler des problèmes, c'était de parler des conséquences et donc du coup du contexte en fait actuel. C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de femmes qui codent, il y a peu de femmes qui se forment à la programmation et il y a peu de femmes qui programme en entreprise, et en fait il y a aussi peu de femmes qui restent, donc c'est aussi d'où l'importance de communautés comme celle de Leïla et Sonia. Donc on estime à peu près entre 10 et 15% le nombre de femmes en formation d'informatique, et c'est à peu près un chiffre qu'on retrouve ensuite dans les entreprises. Donc on peut se dire que c'est un problème pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut être un fervent défenseur ou une fervente défenseuse de la justice sociale et de se dire que ça n'a aucun sens que des métiers qui influencent notre société, qui sont des métiers de pouvoir, à la fois financier, économique, etc., ne soient pas occupés par des femmes. Mais c'est aussi un problème qui est hyper pragmatiquement économique, parce que tout simplement, en fait, les entreprises cherchent des développeurs. Aujourd'hui, on ne forme pas suffisamment de développeurs, donc on a une pénurie de talents. Et dans ce contexte de pénurie, c'est quand même un petit peu dommage de se passer de 52 de la population mondiale. Voilà, en tout cas pour le contexte. Peut-être qu'après, je peux laisser un petit peu la parole à Sonia et Leïla.
Oui, on va faire des échanges. Hein. Donc, Leïla, sur cette partie-là, est-ce que tu veux réagir ou apporter des compléments sur cette partie introductive?
Oui, oui. Bah après, je pense que en termes de chiffres, on est effectivement pas une population qui est très représentée dans les métiers techniques et encore plus dans les positions managériales. Mais et ça, c'est un problème que je constate. Enfin, déjà moi, mais à l'époque où j'étais en école d'ingénieur, en fait, il y avait déjà très peu de filles qui étaient présentes. Mais en plus de ça, elles avaient tendance à abandonner plus vite que les garçons. Je me souviens de ma toute première année où on devait être une quarantaine, donc ce qui était quand même pas si mal sur une promo de 200 personnes. Et au final, l'année suivante, enfin, on s'est retrouvés à une dizaine de filles réparties sur les... Enfin, on était un peu les survivantes, quoi. Donc il y a ce côté un peu où il y a vraiment un drop, que ce soit à l'université où en fait on a l'impression qu'on prend, enfin des échos que j'avais de ces personnes-là qui changeaient de cursus, c'est vraiment j'ai l'impression de pas être à ma place, d'arriver dans un monde un peu de où justement il y a tous les clichés qui persistent un peu, le cliché de quand t'es développeur, développeuse, tu passes ta journée entière devant des écrans, tu ne fais qu'écrire du code, le cliché un peu où on est derrière nos ordi et un peu des geeks dans leur cave, quoi, qui persistent. Donc je pense qu'il y a ce problème-là où en fait c'est un métier déjà qui est peut-être empreint de clichés. Et en plus de ça, il y a un drop côté, en tout cas de ce que j'ai pu voir, hein, où il y avait des personnes qui ne se sentaient pas à leur place quand elles arrivaient à l'université.
Dans une filière technique, c'est ça ?
Absolument, en école d'ingénieur en informatique. Après, ça, c'était un problème qu'il y avait. Ça, c'était en quelle année ? C'était en 2010. Donc, ouais, fou là, ça commence à. Ça fait 10 ans. Donc, pour avoir gardé contact justement avec mes directeurs et directrices d'école, etc., c'est quelque chose qui est en train de changer progressivement. Je pense notamment à la directrice du département informatique de l'Université Paris-Descartes, Madame Dirani, qui fait vraiment beaucoup d'efforts dans ce sens pour justement inciter les filles des promotions de l'élite informatique à rester. Et je suis quand même optimiste sur la suite, où je me dis qu'il y a de plus en plus d'initiatives et voilà, j'ai confiance tout simplement au fait qu'on va réussir à faire basculer cette ratio.
D'accord. Sonia, sur ta introduction, puis après j'aurai une question par rapport à votre première partie, notamment sur le fait d'abandonner. Donc Sonia, sur cette introduction, sur le problème ou le constat en tout cas.
Oui, alors je rejoins tout à fait l'avis de Chloé et de Leïla. C'est indiscutable qu'il n'y a pas assez de femmes représentées dans ce domaine. Mais au-delà de ça, ce que moi j'ai constaté, je ne suis pas de développeuse de métier. J'ai rencontré ça de l'autre côté en étant, en ayant travaillé dans des métiers adjacents, comme dans tout ce qui est analytique, et aussi en tant qu'entrepreneuse. Après, j'ai constaté ça, mais en soi, ce qui m'a beaucoup, on va dire, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est toutes ces initiatives de femmes autour pour créer en fait ces organisations. Comme Paris Django Girls ou Ladies of Code en France, mais aussi dans d'autres pays, parce que ce phénomène, bien sûr, il n'est pas que français, il est partout. Et surtout, de ces dernières années où j'ai vécu 15 ans en Angleterre, c'est aussi le même problème, peut-être un peu moins dans ces pays que la France, parce qu'ils ont commencé ça au niveau éducation, ils ont vraiment changé leur curriculum d'éducation beaucoup plus tôt qu'en France. En tout cas, c'est ce que je constate. Et mais ce qui est beau, c'est que en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des initiatives vraiment pour que les femmes qui veulent puissent le faire, par des organisations telles que celles qui sont là aujourd'hui. Donc ça, c'est le côté très positif du changement qui se passe par rapport à ça.
Alors, sur les initiatives, on va y venir dans une deuxième partie, évidemment. Je voulais rester pour l'instant sur la partie constat. Donc j'avais déjà une première question tout à l'heure. Alors, je ne sais plus si c'est Chloé ou Laïla qui parlait des filles qui ne se sentaient pas forcément à leur place. Et sur le salon web, il y a Marie-Odile qui pose la question, n'était-elle pas à leur place ou leur faisait-on sentir qu'elles n'étaient pas à leur place, qui n'est pas évidemment la même chose. Alors, je rappelle que vous pouvez participer à la discussion sur causecommune.fm, bouton de chat. Donc, est-ce qu'on vous faisait sentir que vous n'étiez pas à votre place et de quelle façon?
Alors oui, c'était moi qui avais parlé de ça.
Donc Laïla.
Laïla, c'est ça. J'irais pas jusqu'à dire qu'on nous a fait sentir qu'on n'était pas à notre place. Après, je pourrais pas m'exprimer pour ces personnes-là, parce que moi, au final, j'ai persisté et je suis restée. Mais je trouvais qu'en tout cas, il y avait un petit côté où, à l'époque, il y avait ce côté, soit tu adores ce que tu fais, ce qui était mon cas, où moi, j'ai découvert la programmation quand j'étais gamine, donc je me voyais pas faire autre chose de ma vie, clairement. Ou alors, tu débarquais un peu dans le domaine et du coup, tu étais face soit à des gens qui étaient passionnés, pour qui c'était un feu en fait, et qui adoraient ça et qui se prenaient des murs en tapant leur première ligne de code, en voyant que ça marchait pas, mais qui réessayaient. Ou alors, il y avait des personnes en fait qui s'étaient orientées dans l'informatique parce que ça les intéressait, mais sans plus. Et voilà, je pense qu'il y avait plus un côté... en tout cas de ce que je comprenais de ces personnes-là, plus un côté où elles ne se sentaient pas à leur place parce que ça leur paraissait trop compliqué, en fait, pour... en fait, elles se faisaient avoir peut-être par les clichés de « il faut être bon en maths, il faut être fort en logique, etc. » Où il y avait tout de suite un côté où, effectivement, les premières années en programmation, même quand on débute la programmation, c'est toujours un peu... un peu compliqué, c'est des nouveaux concepts, il faut s'accrocher quand même pour comprendre. Et donc, ouais, j'ai l'impression que c'était plus un sentiment où elles se sentaient pas à leur place, parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait du harcèlement ou quoi, mais même s'il y avait des histoires aussi du harcèlement dans... Enfin, j'ai eu vent de certaines écoles, en fait, où il y avait du harcèlement sexuel dans... Il me semble que c'était chez 42, mais je veux pas dire de bêtises.
Ouais. Si je peux ajouter, parce que du coup, en fait, dans la création d'Ada, on a rencontré pas mal de développeuses, et ce qu'on observe, c'est un peu souvent des histoires. Donc, il y a des histoires un peu similaires à Leïla, qui sont aussi le fait que quand on est une grande minorité dans une formation, c'est vrai qu'on a tendance à se questionner. Enfin, on est un peu la minorité visible, donc on se pose la question de est-ce que je suis vraiment à ma place. Quand on est la grande minorité, on a aussi un peu le syndrome de représentation des autres. Donc on se dit si je suis nulle pour toutes les filles. Donc c'est, on va dire, un fardeau qui peut être un peu lourd à porter, mais ça c'est un fardeau qui est personnel. Et puis je pense effectivement que de l'autre côté, il y a eu pas mal d'histoires dans 42, dans plein d'autres formations. Je sais qu'une Social Builder, qui est une association qui œuvre pour l'inclusion des femmes dans le numérique, avait sorti une statistique que 70% des femmes en école d'informatique avaient été victimes ou témoins d'actes sexistes ou de blagues sexistes, etc. Donc c'est énorme, 7 femmes sur 10. Et ça, c'est lié également au fait, en fait, d'être dans une position de grande minorité, quoi. Parce qu'on est plus prompte à être victime de ce genre de choses. La culture peut dériver plus facilement, etc. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait d'être une minorité, on se sent comme un être à part. Et il y a de l'autre côté, les autres vous voient comme une minorité visible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parfois, malheureusement, l'effet moutonnier sur lequel ça peut être hyper difficile, quoi.
Alors, justement, là-dessus, j'ai tout à l'heure...
aussi,
Vas-y. Non, vas-y.
Ouais, au niveau de justement la, et on a aussi une compétition parfois qui existe, notamment en école d'ingénieur. Enfin, je me souviens que sur les dernières années, et ça c'est un constat qui était partagé par pas mal de personnes aussi dans mon entourage, il y a souvent des stages en fait qu'on peut être amené à faire, et beaucoup d'étudiants visent parfois des boîtes type, des boîtes prestigieuses ou des expériences à l'étranger, etc. Et là, tout de suite, enfin, je me souviens de commentaires que j'ai eus, puisque j'avais eu l'occasion de faire mon stage à New York, du coup, de fin d'études. Et ça n'a pas loupé, bah, effectivement, les directs. J'ai eu beaucoup de remarques où c'était, t'as été prise parce que t'es une fille. Et sachant que c'était des points, des postes où, évidemment, il y avait une trentaine d'étudiants qui postulaient parce que tout le monde avait envie de partir à l'étranger, quoi. à cette époque-là. Donc il y avait aussi ce côté-là, compétition, et le fait d'être une minorité, ben, on, parfois les autres pensent que c'est un atout, alors que ça peut parfois être un fardeau, comme disait Chloé.
D'accord, il y a Sonia, je crois, qui voulait réagir. Vas-y, Sonia.
Oui, je voulais juste rebondir à ça de manière générale. Personnellement, je n'ai pas vécu ces choses parce que je n'étais pas dans la programmation. Mais ayant vécu plus de 15 ans en Angleterre, en tout cas, ce que j'ai remarqué par rapport au monde éducationnel et comment les femmes étaient vues dans la technologie, ce que je constate ici en France, parce que je suis rentrée depuis peu, c'est que c'est vrai que on sent que c'est un domaine qui est très orienté vers les hommes, du fait qu'aussi que l'éducation, en fait, les filières sont aussi très étroites. On parle d'école d'ingénieurs, on parle essentiellement d'école d'ingénieurs. Et je pense que je vois ça un peu comme un modèle assez, j'ai envie de dire, assez français dans le sens où... j'ai envie de dire que si la façon dont on enseignait la programmation ou le code de manière générale était un peu plus large, il y aurait encore moins ces problèmes, j'ai envie de dire. Par exemple, en Angleterre, on peut apprendre de la programmation, on peut apprendre à code d'autres manières en passant par une école d'ingénieurs tout de suite dans les collèges. Eux, par exemple, après leur niveau troisième, ils peuvent déjà s'orienter dans ce qu'on appelle dans des collèges. Par exemple, on peut faire histoire et programmation, on peut faire sociologie et d'autres choses. Alors évidemment, on va pas être aussi spécialisé comme on peut l'être parfois dans les écoles d'ingénieurs, mais je pense aussi qu'il y a aussi un profond débat aussi sur comment est-ce qu'on peut élargir déjà ça. Mais voilà, je pense que ça vient aussi de ce côté-là. Les filières sont assez serrées, assez étroites, qui fait que c'est un peu élitiste et il y a moins de place pour d'autres personnes. Il faut voir aussi le côté notre monde de l'éducation, comment il offre aussi cette opportunité aux autres d'y venir d'autres façons.
Alors justement sur l'éducation, parce que là, vous parlez, on va dire, des études supérieures, école d'ingé, etc. Mais j'ai envie de vous demander quelle est la situation avant. Et est-ce que le problème ne prend pas racine avant et finalement est assez parallèle avec les sciences, où finalement on dit, bah, les sciences, et tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du bac C qui est réservé pour, enfin, le bac scientifique qui est réservé pour les garçons et les filles font le littéraire, etc. Donc est-ce que le problème n'est pas plus ancien que ça? Et est-ce que les évolutions récentes, notamment autour de l'apprentissage du code à l'école, les enseignements d'informatique, de spécialité d'informatique qui sont arrivés, vont pouvoir corriger cette problématique-là? Qui veut réagir là-dessus?
Alors, moi, je veux bien.
Laïla, vas-y.
C'est Chloé, pardon.
Ah, c'est Chloé, excuse-moi.
Oui, non, pas de problème. Non, mais bien sûr que si, que malheureusement, en fait, on parle des problèmes, et le problème, il est un petit peu plus insidieux et un peu plus systémique que ça. C'est en fait la société de genre, c'est ce vers quoi on éduque nos petites filles et nos petits garçons. Dès les premiers âges, on met des Lego, des jeux de construction dans les mains des garçons, et on va mettre des cuisinières et des caisses enregistreuses dans celles des filles, qui sont des jouets beaucoup plus fonctionnels. Au-delà de juste faire la cuisine, c'est des objets qui sont vraiment vers le soin à l'autre et des objets qui sont fonctionnels. Donc, on va avoir une façon d'éduquer nos enfants qui est différente en fonction de leur genre, qui va les amener du coup à développer une appétence sur une certaine façon de fonctionner, qui vont se convaincre qu'en fait ils sont bons surtout dans les relations humaines, dans la littérature, etc. Et puis du coup au moment de l'orientation, à la fois il va y avoir cette construction sociale qui joue, et puis il va y avoir aussi le regard de l'extérieur, parce que ça serait sacrément bizarre pour un garçon de bonne famille de dire qu'il veut être esthéticienne, et de l'autre côté d'une femme de milieu populaire de dire que finalement elle veut être ingénieure, quoi. C'est des choses qui vont être extrêmement conditionnées par d'où on vient et notre entourage. Quand je dis ça serait sacrément bizarre, je parle de leur entourage, hein, comment ils vont vivre, etc. Donc ça, c'est pour moi une chose qui doit être effectivement résolue de manière systémique, et donc qui doit être résolue avec l'éducation. Et l'éducation, on parle ici de l'éducation nationale. Et effectivement, on insère aujourd'hui le code est descendu au niveau du collège et du lycée, ce qui, je pense, est une très bonne chose, parce que ça montre à la fois que coder, finalement,
c'est un peu comme lire à écrire et à compter pour le 21e siècle. Après, il va falloir se poser la question de qui enseigne à coder, avec quel biais, parce que si c'est les mêmes que d'habitude qui disent qu'en fait, cette discipline, elle a été faite pour les petits garçons de leur classe, ils vont peut-être l'enseigner différemment, ils vont dire que les filles, bon, c'est un peu plus difficile pour vous. Donc, il va y avoir aussi, et je pense que c'est ça qui est hyper important, une formation des profs, qui forment à la programmation au collège et au lycée pour pouvoir justement débiaiser ça, parce que c'est le problème de l'orientation est un problème de biais de genre qu'on a tous et du coup qui amène les jeunes femmes à moins se tourner vers là. Et je pense effectivement, et ce que disait Sonia, c'est important de montrer que la programmation que la programmation au lycée ne soit pas enseignée que par les profs de mathématiques, qu'on ne réentretienne pas ce traumatisme qu'on fait avec les mathématiques chez tout le monde, et que on montre que la programmation, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus créatif, beaucoup plus littéraire que cette vision peut-être un petit peu intimidante qu'on peut avoir en l'alliant systématiquement aux sciences et à la technique et aux maths.
Leïla et Sonia, est-ce que vous voulez réagir sur cette partie, et après on passera justement peut-être aux solutions, ou en tout cas à vos initiatives sur cette partie donc de la problématique de l'école, ou peut-être des parents ou autres. Sonia.
Je rejoins complètement Chloé sur ce qu'elle disait. Vraiment, moi, pour y avoir fait une partie étudier ici en France quand j'étais jeune, et puis avoir continué mes études en Angleterre, j'ai vraiment vu, par exemple, le grand changement, et c'est vrai que c'est une très bonne chose déjà avec ce que j'ai cru comprendre avec le changement au niveau du bac cette année. Et je pense que l'idée d'un petit peu arrêter de limiter les gens à trois filières qui sont toutes les unes différentes des autres, il faut plutôt recréer en fait un mode où les gens peuvent se retrouver dans des filières qu'ils veulent, et s'ils veulent un peu de maths, qu'ils puissent s'utiliser un peu de maths, s'ils veulent un petit peu d'histoire, qu'ils puissent les combiner, et au lieu d'avoir à choisir de manière très, on va dire, très différente l'une de l'autre. Donc ça, c'est déjà un débat déjà à gagner, un pas déjà vers l'ouverture de l'éducation à autre chose. Et je pense que la programmation va aller dans ce sens. Plus on ouvre l'éducation aux jeunes, et plus on va, je pense, avoir plus de profils divers.
D'accord. Leïla, sur cette partie-là, dernière intervention, puis après on va faire une pause musicale.
Je rejoins totalement ce qui a été dit. Après, j'ai peut-être une crainte quant à le temps que ça va prendre côté éducation nationale. Je crois qu'il y avait eu une discussion selon quoi il y allait avoir une agrègue d'informatique, où il y allait avoir un nouveau... parce qu'aujourd'hui, c'est enseigné, je crois, dans le cadre de la techno, mais que plus tard, ça allait être vraiment une matière à part. Donc, voilà, j'ai un peu des craintes sur le temps que ça va mettre à se faire, etc. Donc, peut-être y aller plus par petites étapes, en ayant peut-être des petits modules, plus où des modules d'initiation peut-être à la programmation dans un premier temps, et laisser plus les enfants apprendre par eux-mêmes. Je pense que l'informatique, et même le développement, c'est vraiment un milieu où justement on peut être autodidacte, c'est une réalité, et au contraire, c'est limite encouragé de justement jouer en fait avec les outils dont tu as à disposition. Et je pense que côté parental, je sais qu'il y a de nombreux parents qui sont un peu effrayés par rapport au temps d'écran que consomment leurs enfants. Moi, je dirais qu'il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas simples consommateurs en fait de réseaux sociaux, de vidéos. Enfin, je le vois sur des enfants de mon entourage, c'est effarant le temps qu'ils peuvent passer sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux de ce type. Mais un temps d'écran où vraiment il y a quelque chose qui est construit, où c'est un temps d'écran un peu plus stimulant, là je pense qu'il y a des choses à laisser faire en fait par les enfants en fait, et de laisser un peu guider cet apprentissage là quoi.
Bah écoute, on va en reparler après la pause musicale, et effectivement en plus en période actuelle de confinement c'est encore évidemment pire, mais on va en parler justement la partie fun, la partie créative de la programmation, de l'informatique en général. Mais là on va se faire une petite pause musicale, on va rester avec l'artiste donc Glacieré, on va écouter Floating on the Water, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Mmh. cause commune.
93.1.
D'écouter Floating on the Water par Glacieré, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez référence sur le site de l'April, april.org, et sur le site causecommune.fm. La page de l'artiste sur Bandcamp, c'est Stevia Sphere, donc steviasphere.bandcamp.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons actuellement de l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec nos invités Chloé Hermary de Ada Tech School, Leila Hartmood de Ladies of Code Paris et Sonia Edouard Doury de Django Girls Paris. Donc nous allons reprendre notre échange et on va parler un petit peu de vos initiatives, hein, justement autour de l'apprentissage pour la programmation pour les femmes. Donc nous avons une école et puis deux initiatives un petit peu différentes. On va commencer donc par Chloé, hein, Chloé Hermary de Ada Tech School. Alors tu avais commencé tout à l'heure à un petit peu expliquer que tu avais créé cette école. Mais alors pourquoi tu l'as créée et que fait cette école exactement?
Donc du coup, on mentionnait juste avant le problème et notamment justement ce problème un petit peu insidieux. En fait, pourquoi s'il n'y a pas de femmes aujourd'hui dans l'informatique, c'est peut-être la façon dont on les éduque, la façon dont on les oriente, etc. Donc nous, notre réponse a été un petit peu claire, peut-être un peu plage, je veux dire, moi, on va faire une école féministe. Féministe, ça ne veut pas dire que on exclut les hommes, ça ne veut pas dire que on manifeste tous les quatre matins, mais ça veut dire qu'on va apporter une réponse à ce problème qui on essaye la plus complète possible, la plus systémique justement, on parlait. Donc nous, en fait, on s'est dit la problématique pour qu'il y ait des femmes dans l'informatique, qu'elles y viennent, c'est qu'il faut réinventer le système de formation. Donc on a créé une école, on a repensé le mode de recrutement, le mode pédagogique. Donc Sonia en parlait, l'idée c'était vraiment de présenter l'apprentissage de l'informatique beaucoup plus proche des langues vivantes, parce que en fait quand on programme à plusieurs, on programme rarement pour soi dans son coin, et puis on programme pour des utilisateurs. Donc en fait la programmation c'est un outil hyper humain, etc. Donc amener la programmation d'une autre manière, avec une pédagogie alternative. Donc nous, on s'inspire beaucoup des pédagogies Montessori, Freinet, etc. Dire bon bah en fait une pédagogie qui valorise la confiance, la collaboration, l'autonomie et la créativité, que ce soit un petit peu plus amusant d'apprendre. Et puis ensuite, en dernier point, c'était avec notre école Phoenix de travailler avec des entreprises qui s'engagent aussi en ce sens. Donc nous, c'était notre réponse pour les et des entreprises et puis aussi des associations. Donc on travaille aussi avec les Ladies of Code qui nous aident aussi à placer nos apprenantes. Donc voilà. Donc ADA, c'est une école en 21 mois, 9 mois de formation et 12 mois en alternance qui vise à former des développeurs et développeuses logicielles et qui a un positionnement féministe, des valeurs féministes, qui est ouverte aux hommes et aux femmes. Et nous, aujourd'hui, on reçoit 70% de candidatures féminines et on a 70% de nos apprenants qui sont des apprenantes.
D'accord. Et vous avez donc, dans la promotion actuelle, vous avez combien de personnes ?
Aujourd'hui, on a 30 apprenants en formation.
D'accord. Et donc, c'est donc un an de formation et ensuite un an en alternance, c'est ça ?
Oui, exactement. C'est plutôt 9 mois la première année, mis bout à bout, mais c'est 9 mois la première année et 12 mois d'alternance.
D'accord. Et quand tu parlais donc de la pédagogie Montessori-Freinet, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cours formels comme on peut le connaître dans certaines écoles ? Est-ce que c'est plutôt basé sur des ateliers, des échanges ? Comment ça se passe un peu une journée d'une apprenante, par exemple, à Datech School ?
Ouais. Alors effectivement, nous l'idée c'était de casser ce côté hyper passif des cours, très descendant, où en fait on écoute un prof, figure d'autorité qui dicte un cours, etc. au tableau. L'idée c'était d'avoir un engagement beaucoup plus actif de nos apprenants et de nos apprenantes. Donc en fait nous, nos journées, le matin on va aller sur des exercices ciblés sur une notion, parce que apprendre la française de la programmation nécessite l'entraînement sur des notions particulières. Donc nous c'est ce qu'on appelle les plénières. Donc là, ça va être un moment plutôt collectif, on va être en mode programming, on va aller faire des recherches, etc. Et puis la journée, on va être en autonomie sur le projet. Donc un projet, ça dure 2 semaines. Et là, on est sur un petit groupe et on va avancer dans son projet. L'encadrant, donc nous, c'est pas des profs, on les appelle les encadrants. C'est plus en fait des coachs, des facilitateurs qui vont venir débloquer, qui vont passer de groupe en groupe sur les difficultés, les blocages ou venir challenger des groupes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'idée pour nous, c'était de casser aussi cette idée un petit peu dévalorisante et stressante de l'école, de courbe de progression industrialisée qui doit être la même pour tout le monde, qui provoque qu'en fait, les gens en retard, ils sont hyper stressés et cassés, et les gens en avance, ils se tournent les pouces en attendant les autres. En fait, on a découpé tous ces projets en 3 niveaux et qui permet du coup d'avoir un accompagnement des apprenants qui est beaucoup plus individualisé sur leur propre niveau, leur propre rythme de progression. Et j'ajouterais qu'il y a un dernier point, que notre système de validation de compétences, donc nous, il n'y a pas de notes, donc là, je dis, il n'y a pas de prof, ce sont des encadrants, il n'y a pas de cours, ce sont des projets et des exercices, et il n'y a pas de notes, ce sont des badges de compétences, qui sont d'ailleurs sur le standard BadgeOS, qui est un standard open source, et qui permet en fait à nos apprenants de venir valider leurs compétences selon des badges, selon ce qu'ils savent faire, et non pas avec des tests et des notes de 0 à 20.
D'accord. Alors sur le salon web de la radio, je rappelle aux auditeurs et auditrices qui peuvent nous rejoindre sur causecommune.fm, bouton de chat et salon libre à vous, Marie-Odile, qui pose une question sur la formation des encadrants. Quelle est la formation des encadrants et des encadrantes ? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un diplôme à la fin ? Chloé.
Alors, oui. Alors, donc, nos encadrants et nos encadrantes, donc déjà, nous, on les sélectionne avec au moins 5 ans d'expérience en dev. Donc, c'est quand même des devs qui sont seniors. Ensuite, c'est des personnes qui ont aussi un an d'expérience pédagogique, que ce soit en coaching, en mentorat, etc., donc qui ont manifesté une appétence pour ça. Donc déjà, ça va être notre sélection et le filtre qui va être fait à l'entrée. Et ensuite, nous, on va les former avec des journées d'observation, des journées de co-encadrement, un certain nombre d'outils, de rituels qu'on a créés à l'intérieur et donc du coup, qui leur permet d'avoir la posture de la bienveillance, de l'écoute. Nous, on aime dire que un encadrant ADA, il n'est pas là pour donner la réponse, il est là pour apprendre à la trouver. Donc, du coup, c'est un savant mélange de donner une réponse tout en posant des questions. Donc, c'est assez fin et particulier. Donc, c'est comme ça qu'on les forme. Donc, ça, c'est pour nos encadrants. Et du coup, sur le diplôme, effectivement, donc nous, on a un agrément qui permet de passer un titre reconnu par l'État. Qui est un titre équivalent licence et qui est le titre de concepteur et développeur d'application. Donc en fait, nos élèves, nos apprenants, quand ils sortent à la Tech School, ils ont bien un diplôme reconnu par l'État.
D'accord. Alors évidemment, on va revenir sur Ada Tech School après. Donc le site web, hein, c'est adatechschool.fr, hein, tout attaché. Là, maintenant, on va parler un petit peu de Django Girls avec donc Sonia. Alors là, c'est pas une école, c'est quoi Django Girls? C'est une initiative, c'est un collectif?
On peut dire les deux. Alors, Django Girls, c'est une organisation internationale qui a été créée par deux femmes, Ola et Ola, qui sont polonaises et qui vivent à Londres. Elles étaient elles-mêmes des software engineers et c'était il y a 10 ans, elles avaient vu ce changement et ce manque de place pour les femmes pour rentrer dans la technologie. Et elles ont créé cette organisation qui, au départ, en fait, était une idée. C'était créer un atelier à Londres et donner l'opportunité à des femmes qui voudraient apprendre à coder. Alors, de cet atelier de 50 personnes à l'époque, est devenue aujourd'hui une organisation très structurée qui est dans plus de 90 pays, dans plus de 500 villes. Et en fait, l'idée, c'est que quand une personne a l'énergie et l'envie d'organiser l'atelier, eh bien, elle fait la demande à Django Girls, qui est cette organisation, et bien après, elle devient l'ambassadeur. Et pour ma part, je suis donc la personne qui s'occupe de Django Girls Paris. Et l'idée, c'est de créer des ateliers avec l'idée que c'est gratuit pour toute femme, personne qui sont être une femme, qui se sent comme femme. Et l'idée, c'est d'avoir des sponsors pour en faire un atelier assez grand et d'avoir tous les moyens. Et généralement, ça se passe sur 2 jours complets. Et ce qui est bien avec cet atelier et cette organisation, c'est que n'importe qui peut le faire. Dans le sens où il suffit d'aller sur cette organisation pour demander l'application pour être l'organisateur dans la ville où on veut. Et il y a un tutoriel qui est prêt, qui est fait dans différentes langues. Et en fait, l'atelier peut se faire peut être organisé vraiment de manière très rapide. Et pour notre expérience, le dernier était à Paris. C'était le 8 et le 9 mai. Durant le confinement, nous avions 50 femmes et 12 coachs. Alors, c'était un atelier vraiment spécial parce que c'était pendant le confinement. On n'était pas sûr comment ça allait être organisé. Mais nous avions créé quelque chose de magique parce que ça a donné une perspective encore plus différente que ce que ça allait être. Parce que nous avons donné le choix aux gens qui n'auraient pas pu être là, d'être là. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout, de personnes du sud de la France, une personne qui n'aurait pas pu joindre cet atelier. Et donc, ce profil de femme, je peux vous donner une idée un peu de la catégorie sociale de cette personne désireuse, souvent de ce genre d'initiative. Ce sont des femmes généralement entre 30 et 39 ans. Nous avions des femmes plus jeunes et d'autres plus âgées. Et c'est un peu la catégorie sociale, car souvent, ce sont des femmes qui ont des métiers de tous les jours, par exemple, sage-femme ou journaliste ou quelqu'un entre deux professions. Et souvent, c'est des gens qui veulent changer de travail ou qui sentent le besoin dans leur situation professionnelle de s'adapter à une nouvelle technologie et qui souvent, par manque de temps ou par le moyen de trouver une structure qui puissent les emmener vers là. Alors souvent, la première chose, c'est comme un atelier Django Girls. Alors il y en a d'autres, comme Ladies of Code de Leila et d'autres, comme celle de Chloé. Et la nôtre, c'est dans l'idée qu'en 2 jours, que vous soyez très débutant ou assez avancé, on peut vous mettre dans différents groupes. Et puis, sur 2 jours, vous avez des coachs qui sont de métiers de tous les jours, des CTO, des gens vraiment très seniors dans leur vie de tous les jours et qui ont envie de partager leurs connaissances et de donner le meilleur d'eux-mêmes sur 2 jours de manière bénévole et à cette communauté. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant 2 jours. Et pour moi, c'était la première fois. Et je dois dire que vraiment, j'ai découvert une communauté fantastique parce que moi, je ne suis pas, comme je disais, je ne suis pas de développeuse, mais j'avais envie d'apprendre un peu plus sur le Python. Et c'est comme ça que je suis rentrée, en fait, parce qu'il y avait personne qui organisait à ce moment-là le Django Girls de Paris. Alors, on m'a demandé, j'ai dit pourquoi pas. Et voilà, c'est une organisation vraiment qui est superbe, qui aujourd'hui organise encore des ateliers partout dans le monde, malgré le Covid-19 et la situation. Mais tout se fait aujourd'hui en distanciel.
D'accord.
Si vous allez sur... voilà.
Alors, c'est, le site, c'est djangogirls.org. On reviendra dessus. J'ai juste précisé pour les gens, tu as cité un mot Python, donc qui est un langage de programmation. Et Django, c'est, on va dire que c'est un framework, c'est un ensemble de composants qui aident à développer plus facilement des sites web, notamment avec Python. Et Python est réputé pour être un langage facile à apprendre. Et effectivement, tu as cité le tutoriel qui est en ligne. Je précise aussi qu'il est disponible sous licence libre. Je l'ai été le voir effectivement dans plein de langues. Donc, ça permet effectivement de s'approprier très rapidement ce langage. Mais on va revenir évidemment sur cette initiative. On va finir le tour de table des initiatives donc avec Leïla et la partie donc Ladies of Code Paris. Alors, même question, qu'est-ce que Ladies of Code Paris ?
Ladies of Code Paris, c'est une initiative en fait qui vise en fait à, comme je disais plus tôt, à encourager les femmes à s'orienter vers une carrière technique et à y rester. Donc on est une communauté qui est assez diverse dans la mesure où initialement il y avait beaucoup de développeuses seniors dans différentes technologies, donc soit des développeuses PHP, JavaScript, enfin il y avait quand même une belle représentativité des technos. Mais là avec les derniers meetups qu'on a pu organiser, on a eu de plus en plus de personnes qui sont en reconversion, qui rejoignent la communauté justement pour avoir des conseils sur leur progression, sur ou même des personnes qui sont intéressées par une reconversion et qui demandent des conseils sur justement quelle formation choisir aujourd'hui dans un écosystème où on retrouve énormément d'organismes qui forment au métier de développeuse. Donc voilà, cette mission, c'est vraiment d'accompagner toutes les personnes qui nous rejoignent en fait et les aider du mieux qu'on peut pour s'épanouir dans leur carrière de développeuse.
Et donc concrètement, vous organisez quoi ? Vous organisez des formations, des rencontres ?
Alors, il y a eu un avant-après confinement, je ne vais pas le cacher. Avant le confinement, c'était beaucoup de rencontres du coup à Paris, essentiellement, parce qu'on a un groupe qui est basé à Paris. Et donc on a organisé déjà des apéros juste un peu complètement informels où en fait l'idée c'était juste de se rencontrer, d'échanger sur nos quotidiens et les éventuelles questions que certaines pouvaient avoir sur le métier de développeuse. On a organisé aussi des meet-ups un peu plus techniques où là c'était des personnes de la communauté qui parlait d'un sujet en fait qui les tenait à cœur. Donc on a eu des conférences sur le design system, la mise en place de design system, la mise en place de tests automatisés pour mieux tester son code, de comment mettre en place des tests qui se jouent tout seuls, en gros. On a organisé aussi des workshops sur des technos en particulier, donc notamment une intro au langage Go. Donc ça va vraiment dépendre en fait des envies qu'il y a au sein de la communauté, puisque c'est pas nous, organisatrices, qui allons organiser tous les meet-up, enfin, qui allons être speakers sur tous les événements qu'on organise. On va surtout solliciter la communauté, savoir est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont envie de parler d'un sujet et qui vont le partager, du coup, à l'audience.
D'accord.
Donc, ça, c'était avant le confinement. Oui. Et là, depuis le confinement, du coup, on a arrêté les apéros, évidemment. Par contre, on a continué les meet-up techniques où on fait un live en fait sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est même pratique pour certaines parce que du coup, celles qui ne peuvent pas venir à l'événement peuvent le regarder plus tard quand elles sont dispo, vu que c'est enregistré sur YouTube. Donc,
d'accord.
Voilà,
et j'ai vu sur votre site que vous alliez aussi, vous proposiez d'aller voir les élèves en collège et lycée pour parler du métier de la programmation.
Alors absolument, ça c'est quelque chose une activité pré-confinement qu'on aimerait beaucoup relancer, c'est on va effectivement voir après on a un tout petit réseau là pour l'instant de lycée seulement, mais notre ambition ce serait d'aller voir si possible des collèges dans un futur plus ou moins proche. Mais l'idée oui c'est qu'on va on va intervenir dans des classes pour parler du métier de développeur, raconter nos parcours. Donc là, la dernière fois qu'on l'a fait, il y avait donc moi qui ai un parcours très classique où j'ai tout de suite su ce que je voulais faire. Il y a une autre personne qui a fait une reconversion, donc où pour le coup, c'est intéressant d'avoir une diversité d'histoires, c'est que justement, ça montre ça montre aux élèves que bah, on n'est pas obligé de se décider là à 17 ans tout de suite, ok, ton futur ce sera ça, et de les faire signer pour une formation à jamais. Enfin, c'est vraiment montrer que c'est un métier qu'on peut qui peut être atteint en fait via différents chemins. On n'est pas obligé d'aller vers la voie classique de l'école d'ingé, on peut très bien faire une autre école. L'essentiel est d'aimer ça en fait, tout simplement.
Non, justement, donc, on va pas.
C'est souvent des échanges très très intéressants avec les élèves.
Alors justement, on va parler de ça. Je vais juste citer le site web donc de Ladies of Code Paris. C'est ladiesofcodeparis.netlify.app, c'est bien ça?
Absolument, c'est ça.
Et bien sûr, on mettra toutes les références sur april.org et sur causecommune.fm. Donc là, on a fait une présentation de vos structures. En fait, j'aimerais bien vous faire réagir sur quelques termes que vous avez employés tout à l'heure, parce que qui me paraît important dans la programmation. C'est le terme de créativité, l'importance de l'erreur et de l'échec dans la progression, le fait qu'on peut travailler chez soi. Tout à l'heure, c'était, je crois, Leïla qui parlait effectivement du temps passé sur écran pour faire des choses qui ne sont pas forcément utiles alors qu'on peut le faire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ou essayer de faire comprendre la spécificité de la programmation par rapport justement à l'échec, par rapport à la créativité, par rapport au fait de travailler tout seul? Parce que ça me paraît essentiel par rapport à ce que vous dites. Peut-être Chloé?
Oui. Alors du coup, effectivement, c'est trois choses sur lesquelles il faut insister. Moi, la première qui me tient énormément à cœur, c'est le droit à l'échec. Parce que je pense que c'est vrai dans la programmation, c'est vrai dans l'apprentissage. C'est d'ailleurs très 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 peu porté par le système traditionnel français, malheureusement. Et ensuite, l'orientation, parce que toute sa vie, finalement, on fait du test and learn sur son orientation. Donc ça, c'est vraiment, je souligne ça parce que c'est un point qui me tient énormément à cœur. C'est le droit à l'erreur, même pas l'échec, on devrait dire le droit à l'erreur, parce qu'on apprend énormément ça. Donc effectivement, la programmation, c'est en fait, il faut savoir que sa première ligne de code, on a des très 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 grandes chances quand même qu'elle ne soit pas bonne, d'avoir des erreurs, etc. Et donc quand on code, on va avoir beaucoup avant de sortir un programme correct qui fera un bon résultat, écrit correctement, etc. Bah, il va y avoir beaucoup d'erreurs qui vont être faites jusque-là, et c'est pas grave. Il faut continuer à avancer. Donc c'est vraiment une discipline qui valorise le test and learn. Et du coup, moi je trouve ce que je trouve très intéressant, parce que je trouve que c'est très bonne pratique qui apprend pour la vie au sens large du coup dont je parlais. Ça nécessite de la créativité, parce que en fait un programme, finalement, c'est la solution machine, la solution informatique à un problème de la vie réelle qui est rencontré par des utilisateurs, des utilisatrices, et donc en fait on résout un problème quand on programme. Et donc du coup, ça va nécessiter une créativité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir se triturer le cerveau pour trouver une solution. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que notre solution, elle va être très personnelle. On va pouvoir, y a pas vraiment de bonne réponse, en fait. Donc, du coup, différentes personnes vont pouvoir trouver une solution différente. Et c'est ça aussi qui est très créatif dans la programmation. C'est qu'on a le droit d'avoir un style, on a le droit d'avoir une interprétation du problème, et on a le droit de le résoudre à sa manière. Et ensuite, on parlait de la dimension sociale, de la programmation sociable. En fait, les métiers de développeurs, alors, moi, je suis pas développeuse, donc je laisserai peut-être Leïla reprendre après. C'est des métiers qui sont collectifs. C'est très rare dans la vie d'une entreprise d'avoir un seul développeur ou une seule développeuse. On code à plusieurs. Son code, c'est de la matière. Moi, j'aime dire que c'est une matière organique qui passe de main en main. Donc, on doit penser aux autres. Alors, à sa réutilisation. Sa réutilisabilité, on pourrait dire, à la dette technique, à bien le documenter, etc. Donc, on va rarement coder seul dans son coin, pour soi, on va coder pour d'autres personnes. Donc, pour nous, c'est aussi un outil qui est vraiment social, en fait, la programmation.
D'accord. Je précise juste qu'il nous reste que quelques minutes, 3-4 minutes. Donc, Leïla, est-ce que tu veux compléter sur cette partie-là?
Oui, absolument. Là, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Chloé. Le droit à l'erreur, c'est la base, je pense, dans la programmation. Et justement, je constate beaucoup dans les workshops que j'ai pu faire, en fait, il y a une vraie peur des apprenants parfois à justement taper une ligne de code parfois, ou mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Et j'ai tendance à dire, c'est pas grave, ton ordinateur va pas s'enflammer, enfin, tout va bien, ça va bien se passer. Et au contraire, c'est une manière de voir que ça marche pas, en fait. Donc, tu n'échoues jamais, en fait, tu vois juste, ok, ça ne marche pas, c'est un constat. Et je te rejoins totalement aussi sur la notion d'activité sociale. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point qu'on n'a pas assez mentionné, justement, dans les formations plus classiques, c'est le fait d'écrire du code pour les autres, parce qu'au final, faire du code qui est interprétable par la machine, c'est facile, mais par d'autres êtres humains, c'est un peu plus complexe. Donc clairement, je te rejoins partout là-dessus. Et sur la créativité, il y a vraiment un côté amusement où, en fait, la programmation, c'est se donner libre cours à son imagination aussi un peu, et la possibilité de vraiment faire des choses chouettes, que ce soit pour des enfants, des adultes, il y a moyen de s'amuser à tout âge.
Sonia, est-ce que tu veux réagir sur ce point avant que je passe à la dernière question collective ?
Juste vraiment de manière rapide, je pense que tout normalement, on apprend par les erreurs et que l'échec, que ce soit à travers jour à jour le code ou même dans sa carrière, changer, c'est une manière de se redéfinir et d'être plus fort par rapport à ce qu'on fait de manière générale.
D'accord, super. Alors, je suis désolé, mais le temps file et nos invités suivants viennent de s'installer dans le studio tout à fait discrètement. Je pense que vous ne les avez peut-être pas entendus. Donc, en tour de table final, j'aurais envie de vous demander un petit peu si vous avez soit des conseils de lecture, de podcast à conseiller, ou si vous avez une actualité particulière ou des besoins. Allez, vous avez chacune une minute pour ce tour de table final. On va commencer par Chloé et Hermarie.
Alors moi j'ai deux lectures à conseiller, qui est une lecture qui est d'abord d'Isabelle Collet sur le domaine, qui s'appelle Les oubliés du numérique, qui est vraiment un livre hyper accessible, engagé, drôle, etc. et facile à lire, sur sa féministe et à la fois la place des femmes dans l'informatique. Ensuite il y a un autre livre qui est un livre de Bell Hooks qui s'appelle Tout le monde peut être féministe. Et je trouve que ça casse un petit peu ce mot qui fait peur et qui effraie. Et elle l'explique très bien de manière positive, mixte, etc. En quoi, en fait, c'est le féminisme. Voilà. Et ça, c'est pour un petit peu les lectures confinement que je recommande aux gens. Et sinon, nous, notre actualité, c'est qu'on a on fait trois rentrées par an. On vient de passer une rentrée en octobre. Il y a également une rentrée en janvier et en mai. Donc, si des auditeurs ou auditrices sont ou connaissent des personnes qui cherchent à se former en informatique dans un cadre accueillant, bienveillant et accessible, voilà, envoyez-les-nous à latexcool.fr. Les candidatures sont ouvertes. Il n'y a pas de prérequis technique. On recrute des personnes pour leur projet, pour leur motivation, pour leur persévérance, pour tout plein d'autres compétences, mais pas le fait d'être déjà un geek ou une geekette de la première heure. C'est ouvert à tout le monde.
Bah écoute, merci Chloé. Donc, il est là à fond, une minute de conclusion.
J'ai une recommandation à faire. C'est un podcast. Si jamais vous êtes intéressé par le domaine du développement, c'est un podcast anglophone qui s'appelle Ladybug Podcast, où c'est trois développeuses en fait qui vont aborder différents sujets liés à la programmation. Après, en podcast francophone, j'ai aussi Artisan Développeur que j'écoute beaucoup, qui va interviewer en fait différentes personnes justement toujours autour du métier de développement et même discuter de pratiques en fait qui peut mettre en place dans sa vie professionnelle à lui, notamment sur sa déconnexion qu'il a tenté une déconnexion pendant 10 jours en fait de ses téléphones, etc. Donc vraiment c'est un podcast très très intéressant si vous êtes intéressé par justement le domaine du développement, c'est chouette à écouter. Et en termes de notre actualité, on continue malgré le confinement à organiser des événements, donc vous pouvez suivre nous suivre en fait via notre site web sur nos prochains événements et on lance notamment notre réseau de mentoring où l'objectif est de pairer en fait des développeuses entre elles pour s'entraider sur des problématiques. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le concept, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Notre adresse est sur notre site web.
Écoute, merci Léa. Tu m'enverras les références pour les podcasts. On les rajoutera sur le site de la radio.
Et ouais, avec plaisir.
Voilà. Et puis, parce que je ne les connais pas. Donc, en plus, j'aurai des nouveaux podcasts à écouter. Sonia Edouard-Darry de Django Girls Paris.
Oui.
C'est à toi.
Alors, en soi, rien de particulier. Je pense que il y a beaucoup de choses. Et plutôt par rapport à mon expérience, j'ai découvert récemment un workshop qui s'appelle Humble Data Workshop sur les gens qui sont intéressés pour tout ce qui est data science. Ils font beaucoup de workshops pour les gens qui sont intéressés et je pense que c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui cherche dans ce domaine. Et puis, bien évidemment, Django Gort Paris, mais aussi d'autres villes en France, si vous voulez en savoir plus. Sachant qu'aujourd'hui, quelqu'un avait posé la question sur le forum. La manière dont on le fait, c'est par distance, en utilisant diverses formes de moyens. Alors, ce qui est possible, la dernière fois, c'était en utilisant Discord, Zoom, ce qui est pratique pour tout le monde pour l'utiliser. Et ça se fait aussi bien que si c'était, on va dire, en présentiel. Donc, ça, c'est ce qui se fait. On continue de le faire comme d'habitude. Donc, voilà, ça, c'était mon mot.
Bah écoutez, en tout cas, merci. Je vous avais les félicitations de Marie-Odile qui dit merci à ces trois femmes, on peut dire brillantes. Et effectivement, je confirme. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas si vous avez des actualités ou si à un moment vous voulez parler d'autre chose dans la radio, vous êtes les bienvenus. Donc, c'était Chloé Hermari de Ada Tech School, Leila Hartmut de Ladies of Code Paris et Sonia Edouard-Dary de Django Girls Paris. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes les trois et à bientôt.
Belle journée.
Merci.
Au revoir. On va faire une pause musicale, chers réalisateurs. On va continuer avec l'eau, la glace. On va écouter Glacier Zone par Glaciaré. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Écoutez Glacier Zone par Glaciaré, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Que libérer d'autre que du logiciel ? C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Reconditionnement, baisse des déchets, entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Aujourd'hui, Isabelle et Fréco vont nous parler de nouveau de téléphonie mobile et de liberté, la suite de leur chronique du 13 octobre 2020. Et je remercie évidemment Antanac aussi de nous accueillir aujourd'hui dans le studio décentralisé. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour Fréco.
Bonjour Fred.
Je vous laisse la parole.
Comment libérer son téléphone ? Donc le mois dernier, lors de la chronique Antanac intitulée « Téléphone et vie privée », on avait parlé de l'important niveau de données que les géants du net peuvent recueillir sur nous. Et on avait conseillé pour s'en protéger d'utiliser les applications et les systèmes d'exploitation libres. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus concrètement aux différentes possibilités de libérer son téléphone. Pour reprendre les systèmes d'exploitation basés sur Android libre, on a cité le plus connu, Lineage, ainsi que E, qui est basé sur Lineage, mais avec les services Google Micro-G, permettant d'utiliser les services Google sans le flicage.
Quand tu parles de services Google, tu parles en fait de quoi ? D'applications spécifiques ? Tu peux donner des exemples là-dessus ?
Alors les services Google sont des programmes Google utilisés par certaines applications, comme le cas de Waze qui utilise Google Maps pour la navigation.
Ok, tu as dit sans le flicage, mais ça c'est pour de bon. En quelques mots, tu peux dire de quoi il s'agit d'un point de vue technique, cette capacité d'utiliser des services sans avoir les problèmes de surveillance et de pistage ?
Alors, en gros, Micro-G simule les services Google, mais plutôt que de donner des informations personnelles de l'utilisateur à Google, il donne en fait de fausses informations, comme par exemple un mot rempli d'espace à la place du nom du lieu où vous vous trouvez.
Ok, c'est ça l'origine des fausses informations dont on parle tant.
Oui, c'est ça, si l'on veut.
En fait, ce sont donc les développeurs, les développeuses de ces systèmes qui ont prévu une sorte de paravent, c'est ça, avec l'envoi d'informations diverses, et ça, c'est inclus dans les systèmes d'exploitation dont on parle là ?
Oui, alors c'est Micro-G qui a cette fonction, Micro-G qui est par défaut intégré et paramétré dans le système E.
Ok, et on peut les installer sur beaucoup d'appareils, tous ces systèmes d'exploitation ?
Alors pour Lineage, il y a plusieurs centaines d'appareils compatibles, si on prend en compte aussi les anciennes versions qui ne sont plus mises à jour aujourd'hui. Pour E, une centaine d'appareils est actuellement supportée.
Et l'installation se fait facilement ?
Alors pour la partie installation, le site de Lineage et ses tutoriels ne sont pas forcément orientés grand public. Par rapport aux ordinateurs, il y a des spécificités propres au téléphone. Pour résumer cette partie technique, je dirais juste qu'à l'allumage du téléphone, un programme de sécurité appelé bootloader ou chargeur de démarrage permet de lancer le système d'exploitation Android sans que l'on puisse le modifier. Et en cas de problème de démarrage, ce bootloader va automatiquement lancer le recovery, le programme de dépannage, qui permet d'en savoir plus sur la panne et de pouvoir éventuellement réinitialiser le téléphone. Donc pour l'instant, pour l'installation manuelle d'un nouveau système, la première étape est donc de déverrouiller le bootloader afin de pouvoir installer autre chose. Alors cette étape varie beaucoup suivant le fabricant du téléphone. En effet, cela peut varier d'une simple ligne de commande à plusieurs jours d'attente d'un code de déverrouillage fourni par le fabricant après avoir rempli un questionnaire.
Il ne faut pas confondre ce déverrouillage avec celui qu'on fait pour utiliser n'importe quel opérateur sur le téléphone. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même concept.
Alors oui, alors tu fais bien de préciser, cela n'a rien à voir avec le verrouillage d'un téléphone par un opérateur, mais c'est bien le verrouillage du système Android par le fabricant. Donc une fois déverrouillé, la deuxième étape consiste à remplacer le programme de dépannage initial, donc le recovery, par un autre permettant l'installation d'un nouveau système d'exploitation. Ce qui se fait généralement à partir de son ordinateur relié au téléphone avec un câble USB.
Ok, c'est donc quand même un peu technique. Il faut avoir avec soi donc le téléphone en question, la connectique qui va bien et un ordinateur. Et c'est sur l'ordinateur qu'on a téléchargé le système dont tu parles et qu'on va ensuite copier sur le téléphone, c'est ça ?
Oui, alors d'ailleurs il faut bien avoir un câble USB qui transmet bien les données, bien sûr, et qui est en bon état. Alors voilà pour la troisième étape. À partir de ce nouveau recovery fraîchement installé, on peut supprimer l'ancien système du téléphone et en copier un nouveau. Dans le cas de Lineage, ne pas oublier que c'est uniquement à ce moment-là où il est possible de rajouter des services Google, toujours de la même façon, en copiant un fichier depuis son PC.
Ah, et si tu ne le fais pas à ce moment-là, après c'est trop tard ?
Alors si entre-temps tu as lancé le système d'exploitation, alors oui, c'est trop tard, il faudra écraser puis réinstaller le système. Après, il y a quelques spécificités suivant les marques, comme Samsung, où il faudra utiliser un logiciel permettant le déblocage et la copie des fichiers, ce qui facilite du coup l'installation. Par contre, la marque chinoise Huawei ne permet plus de déblocage du bootloader de leur téléphone depuis l'été 2018. Il est malheureusement impossible donc de libérer votre téléphone Huawei s'il n'a pas été déjà débloqué.
Ça, c'est intéressant. C'est un choix précis de la part de cette marque. Tu dirais que c'est en plein cœur de la politique commerciale, mais aussi sécuritaire, dans le sens de surveillance pour empêcher les personnes de se libérer de services qui sont jugés comme obligatoires.
Alors, officiellement, ils ont justifié ce choix pour des raisons de sécurité, mais on peut supposer que c'est plutôt pour s'assurer la maîtrise des informations privées. Et cela, bien sûr, concerne aussi la marque Honor, la sous-marque de Huawei. Alors, vous trouverez plus de détails techniques sur la démarche d'installation toujours sur le patch April que vous retrouvez en commentaire de la vidéo. Donc le but étant de pouvoir prendre du recul sur les tutoriels très précis d'installation de Lineage qui sont en anglais et donc de comprendre bien ce que l'on fait. Après, pour quelqu'un qui n'a pas peur d'installer une distribution en GNU Linux sur PC, comme toujours, la première fois est spécialement engageante, après ça va.
Oui, c'est le sujet d'atelier qu'on avait réalisé l'année dernière à Antanac et qu'on pourra sans doute refaire prochainement.
Exactement, ça avait intéressé pas mal de monde et on pourrait le refaire après le confinement.
Je crois qu'il y a vraiment une demande parce que les gens se demandent s'il est prudent de se lancer là-dedans, tout seul, toute seule, dans cette procédure.
Alors bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais oui, contrairement aux ordinateurs sur lesquels on peut toujours revenir en arrière, si on installe le mauvais fichier correspondant à un autre modèle, cela peut poser problème et bloquer définitivement le téléphone. On parle alors de briquer le téléphone, c'est-à-dire de le transformer en un magnifique presse-papier.
Ouais, c'est ça. En tant qu'on a l'habitude, on peut toujours reformater effectivement un disque sur un PC, puis c'est reparti, on peut recommencer une installation plusieurs fois. Je comprends mieux pourquoi tu insistais sur le codename, l'identifiant de chaque sous-modèle.
Alors bien sûr, faut bien, pour cette étape, il faut bien prendre votre temps et suivez bien les instructions. Ni en tant que ni l'April ne seraient tenus responsables de quelconque problème survenant sur votre matériel. Et pour vous aider, il y a toujours des groupes d'utilisateurs de logiciels libres qui peuvent vous accompagner lors de l'installation. N'hésitez pas à les contacter. Après, même si aujourd'hui il est difficile d'organiser des événements publics sur le sujet, il est toujours possible de s'entraider à distance, en visio ou par téléphone. C'est toujours plus rassurant de se lancer là-dedans avec l'appui d'une personne plus expérimentée.
Et du coup, pour eux, parce que là tu as parlé de Lineage, pour eux c'est la même chose, c'est la même procédure d'installation?
Alors pour la plupart, oui, mais ils commencent à proposer leur nouvel installateur automatique. Donc sur 7 appareils déjà, ce qui permet une installation aussi simple qu'une distribution GNU Linux sur PC. Il faut juste cliquer sur suivant, patienter, appuyer sur tel bouton, cliquer sur suivant, et voilà.
Ok, on augmente encore les capacités de dégooglisation.
Oui, car le fait que les tutoriels soient en anglais et qu'il soit nécessaire de rentrer des lignes de commande peut effrayer certains.
Oui, mais du coup, les personnes qui n'ont pas envie de modifier, de changer leur téléphone, de modifier leur système d'exploitation ou qui ont besoin de changer de téléphone, est-ce qu'on peut maintenant donc acheter, je crois que oui, hein, acheter un téléphone soit neuf, soit reconditionné avec déjà un système installé, libre?
Alors oui, et cette année d'ailleurs, plusieurs téléphones commencent à sortir avec des systèmes d'exploitation libres préinstallés. Cela faisait longtemps que l'on attendait ça. Ils sont listés à la fin du premier lien indiqué sur le pad.chaprim. Pour le grand public, la solution la plus facile serait de passer par le site e.foundation pour acheter un téléphone reconditionné avec e préinstallé, ou même acheter un téléphone neuf qui est disponible avec e préinstallé, le Fairphone 3.
Ok, et donc après ces installations ou ces acquisitions-là, on a un téléphone complètement libéré, mais est-ce qu'on est sûr qu'on est à 100% de logiciels libres dessus?
Alors juste pour certains pilotes matériels peuvent être non libres. Pour le 100% libre, il faut s'orienter sur répliquant. C'est avec ce système que vous avez la plus grande garantie de liberté, et si un périphérique n'a pas de pilote libre, alors il n'est tout simplement pas utilisable. Donc suivant les modèles, il faudra parfois se passer de certaines fonctionnalités comme le Bluetooth, le GPS ou le Wi-Fi. Voilà pour les systèmes libres basés sur Android.
Et oui, parce qu'on peut aussi installer des systèmes non basés sur Android.
Alors oui, il existe des systèmes basés directement sur GNU Linux, mais on aura plus de temps d'en reparler lors d'une prochaine chronique.
Ça marche, donc rendez-vous en décembre pour la prochaine chronique.
Ça marche, c'est noté.
Ben merci, c'était donc la chronique d'Antanac par Isabelle et Fréco, et on a déjà parlé plusieurs fois donc de réplicantes Lineage OS, notamment avec Aurélien Coudert, et Paul Kosialowski, donc je ne me souviens plus dans quelle date c'était, mais vous retrouverez ça sur causecommune.fm et sur april.org. Et je remercie Antanac pour nous accueillir aujourd'hui dans le studio décentralisé, exceptionnellement, parce qu'il y a des travaux dans le studio principal.
Avec plaisir.
Donc nous allons passer à quelques annonces rapides. Alors, très rapidement parce qu'on va arriver à la fin de l'émission. Y a des réunions qui se passent quand même à distance actuellement, hein. Donc, notamment la réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April. Chaque jeudi, à partir de 17h30, ça se passe à distance. Donc vous pouvez y participer. Donc vous rendez sur april.org. La semaine dernière, Vincent Calam nous avait parlé des soirées de conversation autour du livre organisées par le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices parisiens Parinux. Donc parinux.org. Donc ça se passe la première, et bien, toujours jeudi aussi, à partir de 20h30 à 23h. Et c'est Vincent Calam qui interviendra pour présenter un outil qu'il développe. Donc ça permet de participer à distance dans ces soirées de contribution au livre. Et tous les autres événements du livre, vous les retrouvez sur l'agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Chloé Hermari, Leïla Hartmut, Sonia Édouard Doury, Isabelle Carrère, Fréco, aux manettes de la régie aujourd'hui, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à l'équipe podcast. Alors, Sylvain Kutzmann, Antoine, Samuel Aubert, Olivier Humbert, Élodie Daniel Giraudon, Quentin Gibault et Christian Beaumont qui se relayent pour traiter le podcast et le découper. Vous retrouverez sur april.org et sur causecommune.fm toutes les références utiles et on va en rajouter parce qu'il y a d'autres références qui ont été ajoutées, notamment le lien vers le patch April parce qu'évidemment, c'est pas forcément tout à fait facile de le noter comme ça en direct. N'hésitez pas également à nous contacter si vous avez des questions, des remarques ou autres. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. Il y a des super émissions sur la radio. Il y a notamment Isabelle qui parle d'habitat très régulièrement. Donc allez sur causecommune.fm. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 novembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal aura pour thème « Au cœur de l'April confiné ». Une présentation d'action, groupe de travail de l'April et des échanges. On vous parlera aussi des coulisses de l'émission Libre à vous. Si vous avez des questions, remarques, d'ici là, n'hésitez pas. Rendez-vous sur april.org ou sur causecommune.fm pour trouver les moyens de nous contacter. Posez-nous toutes vos questions, on y répondra le 17 novembre. Il y aura une deuxième émission le 1er décembre 2020. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 17 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien.